Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Confions notre journée à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup de prendre des paroles de notre bienheureux Père à travers ce petit fascicule. Il a été prévu que le monde ne nous écouterait pas toujours. Il n'en faut pas moins témoigner. La vérité, tandis que le temps et le pouvoir, nous en est donné. Dieu fera fructifier quand il lui plaira. Donc, nous retrouvons notre bienheureux Père en novembre 1800 lors de son retour à Bordeaux, donc en France. Et il constate l'état lamentable de la situation chrétienne. Mais chrétienne, je m'imagine que ça veut dire aussi humaine, car je crois que tout ça se tient. Le monde sans Dieu devient un monde sauvage. Un monde sauvage. Dans un autre contexte, je crois que c'est Saint Jean-Marie Vianney qui disait, mais il l'attribuait aux prêtres. Il disait, enlever le curé d'une paroisse, et les gens adoreront les vaches. Il semblerait que c'est lui qui aurait dit ça. Donc, il y a un état qu'il regarde et qu'il découvre au niveau humain et au niveau chrétien. Et il est très marqué par cette situation. Si maintenant, comme nous arrivons à la fête de tous les saints bienheureux, demain, ou après-demain, je sais plus, moi j'ai le problème avec les chiffres, et du haut du ciel, il doit quand même voir cet état de notre société d'aujourd'hui. Car il paraît que ceux qui sont au ciel ont une visée entière du monde. J'y suis pas encore allé, mais c'est ce qu'on nous dit, hein, que les saints, les bienheureux, comme notre Seigneur, la Sainte Mère, ils voient le monde entier dans sa réalité humaine, ce monde que nous disons créé par Dieu. Dieu qui a confié à l'homme sa création. Et donc Dieu est surpris de voir ce que l'être humain fait de la création qui lui a été confiée. Alors, aïe aïe aïe, je vais le dire quand même. Notre bienheureux fondateur voit l'état de son institut, de sa congrégation, et de ceux qui veulent continuer la grâce que Dieu lui a faite. Moi, je n'ai pas de problème à croire que notre fondateur voit la réalité de la société de Marie. France-Belgique et sans doute également ailleurs. Je suis aussi convaincu qu'il aime ce qu'il a fondé avec la grâce de Dieu. J'ai pas de difficulté à croire qu'il aime la société de Marie qu'il a créée par la grâce de Dieu. Et qui cherche comment nous remettre dans la grâce de Dieu. Moi, je crois qu'il y a là quelque chose qu'il nous faut chercher. Et je vais encore le ressortir parce que c'est un dada. C'est pas les coachings qui nous aideront à trouver ça. Mais c'est un retour profond dans une attache et une réconciliation avec le Seigneur. Donc, il revient là en France, l'état un peu lamentable. C'est une période où il était une grande violence, quoi. Grande violence humaine, un esprit quand même pas très sain qui a prédominé à toute cette situation. Il voit aussi la faiblesse du clergé. Alors, comme je le dis assez facilement aux gens qui parfois ont de grandes exigences vis-à-vis des prêtres, je leur dis, le sacrement de l'ordre ne remet rien en ordre. Et je le sais pour moi-même. Donc, c'est une lutte constante pour revenir à la grâce qu'on a reçue. Une lutte permanente, un combat permanent pour revenir à la grâce qui nous a été faite. Et je ne sais pas si mes confrères de noviciat s'en souviennent, mais notre retraite d'entrée au noviciat était prêchée par le père Coulin. Et je vois encore, enfin plutôt pas je vois et j'entends, le père Coulin encore insister sur l'importance du combat spirituel. Ça m'avait fortement impressionné, à l'époque un peu embêté, je pense. Je me disais, quand est-ce qu'il va finir? Mais aujourd'hui, il y a 40 ans de ça. Il y a 40 ans que nous sommes rentrés au noviciat. Il y en a d'autres, c'est plus. Hein. 41 et toi, presque 50. Pas loin. Mon Dieu, comme on rajeunit. Et donc, revenir à la grâce qui nous a été faite, à ce désir que nous avons eu de dire « ma vie, c'est là qu'elle sera féconde et riche ». Parfois je dis « j'aurais peut-être gagné beaucoup mieux ma vie si j'étais pas rentré dans la société de Marie, hein. Si j'étais resté à l'hôpital ». Ça aurait peut-être été moins compliqué, je n'en sais rien. Mais je me demande si j'aurais été aussi heureux qu'aujourd'hui, même si parfois la société Marie me fait souffrir. On ne peut pas nier la réalité, quoi. Il y a un combat pour résister à toutes ces choses-là. Entre autres, pour ne pas laisser notre foi se détruire. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas laisser notre foi se détruire. Car c'est ce que le malin cherche. Il met toujours, à tous les endroits, il y a toujours quelqu'un qui est là pour démolir notre foi. En d'autres termes, pour nous détourner du Seigneur. On a ça dans les paroisses, on a ça dans les communautés, on a ça dans les monastères, féminins, masculins, partout. Donc, notre bienheureux Père voit que les paroisses, elles sont ce qu'elles sont, quoi. Pas terribles, quoi. Un peu comme aujourd'hui. Un peu comme aujourd'hui. Vous savez, quand je vois les gens qui cherchent, non pas tellement des endroits où ils auront la messe, mais qui cherchent des lieux
où ils pourront trouver le Christ. Ça ne fait pas légion, hein. Alors, nous ne sommes-nous pas ces lieux où les gens peuvent trouver le Christ? Pas tellement en parole, mais ça se sent. L'ambiance, le climat révèle celui qui est au centre. Paroisse donc pas terrible, beaucoup de chrétiens qui ont abandonné la foi, les lieux de culte transformés en toutes sortes. Hein. Quand je vois, n'est-ce pas, la chapelle de notre collège à Rèves, on a enlevé les vitraux pour faire une salle de gym dans la chapelle. Quoi. Voilà. Mais il paraît qu'on n'a rien à dire. Je ne sais pas si on n'a rien à dire. En tout cas, on peut demander pardon au Seigneur. On peut demander pardon au Seigneur. On peut lui demander pardon. Et donc, le Benjaminite, avec sa foi, et je comprends qu'il ait autant insisté pour nous, à l'intensité de notre foi. Pour lui, notre foi permettra de percevoir ce qui se passe et où nous devons agir et être présents. Car la foi est une illumination. Donc la foi nous donne de voir ce qui se passe et comment y être présent, quoi. Pour lui, c'est l'indifférence du monde dans lequel il est revenu, indifférent à Jésus-Christ. C'est le monde d'aujourd'hui, hein. Les gens sont indifférents, quoi. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais hier, pendant la consécration, il y a un jeune couple qui est rentré dans la chapelle. Lui est resté au milieu de l'allée, impressionné sans doute par ce qui se passait. Elle est restée dans l'entrée de la porte et elle lui faisait des signes, viens, viens, viens. Et je pense qu'il a dû choisir sa moitié au lieu de Jésus-Christ, car fallait sans doute qu'ils retournent et qu'ils passent encore la nuit ensemble. Quoi. Donc, cette indifférence, quoi. Comme où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui, quoi. Où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui? Je crois, pour moi, que ce que nous avons à faire redécouvrir, c'est que la puissance de notre foi nous permet de faire face à tout ce qui arrive. La foi, puissance de vie, la foi sauve, parce qu'elle est une puissance de vie dans tout ce qui risque de nous détruire. Mais cherchez, regardez, priez, vous découvrirez au niveau de l'invisible, quelles sont les demandes que le Seigneur vous adresse? J'ai toujours été impressionné quand on proclame le credo, qu'on dit que Dieu est le créateur du monde visible et invisible. Et je suis intimement convaincu que par l'invisible, nous pouvons transformer le monde. Par l'invisible. On prend toujours comme exemple Thérèse de Lisieux, patronne des missions, à 24 ans, alors qu'elle n'avait jamais quitté son Carmel. Donc, ça devrait nous encourager à passer du temps avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Père cherche à insister sur l'importance de notre vie d'union? Savoir être uni au Christ jour et nuit, nuit et jour. plus je suis uni à lui, plus le destructeur s'éloigne de moi. Mais c'est une lutte. Jésus dit bien, il est terrible, méfiez-vous de lui. Quand une maison est bien nettoyée, il revient avec sept autres. Donc, pensons bien à voir ce qu'a été la vie de notre fondateur, en départ de la foi, ce qu'il a pu comprendre, ce que notre foi nous donne de comprendre et qu'elle nous donne la manière de répondre à ce qu'on voit. Parce que si par ma foi, je réponds à ce que j'entends, à ce que je vois, ma réponse n'est pas la mienne, mais elle est la réponse de Dieu. Elle est la réponse du Christ. Elle est le bon esprit. Et donc, par l'invisible, nous pouvons solutionner énormément de choses. Et donc, pour lui, cette question de l'indifférence, quelque chose de terrible. L'indifférence fait que l'être humain ne vaut plus rien. Regardez aujourd'hui toutes les questions de l'euthanasie. Regardez aujourd'hui toutes les questions de l'avortement. Savez-vous qu'en 2023, en Belgique, il y a eu 14 000 demandes de personnes qui ont voulu sortir du registre de baptême. 14 000 en 2023, sur un petit pays, hein, c'est pas la France. Et quand le pape est venu, il a beaucoup réinsisté sur ce côté de l'avortement qui était quand même quelque chose de pas très bon. Et comme vous savez, il a été très mal reçu en disant ça. Hein. Qui plus est, dans l'avion, il a eu cette parole malheureuse, qu'il a dit que ceux qui pratiquaient les avortements, ce sont des tueurs à gages. Et quand tout ça a été diffusé, pof, les demandes sont arrivées pour être débaptisées. Et la semaine dernière, on me disait, c'est quelqu'un qui est proche de l'archevêque, il disait, depuis la venue du pape en Belgique, il y a déjà eu 500 demandes pour sortir des registres de baptême. Alors oui, on fait des cocoricos parce qu'il y en a qui veulent être baptisés adultes, mais si on fait la proportion, enfin, ce sont des autres questions. Grande était la douleur de Chaminade de voir cette situation. Moi, je crois que c'est la grande douleur de tous ceux qui ont compris la beauté de l'être humain. Ceux qui ont compris la beauté, la grandeur, la dignité de l'être humain s'engagent pour qu'il ne soit pas détruit et pour que l'être humain ne se détruise pas. Quand on a compris que l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, on fait tout pour que l'être humain ne soit pas ni détruit ni abîmé, quoi. En pensée, en parole et par action. C'est notre mission aujourd'hui, hein. C'est notre, à mon avis, c'est notre grande mission aujourd'hui. Dans les constitutions de 1839, article 339, il dit « La foi s'est affaiblie, s'est éteinte dans un grand nombre d'individus. » Et est-ce qu'il n'y a pas quelque part un endroit où on nous dit qu'il avait été impressionné par la faiblesse de la foi dans les monastères et dans les couvents. Moi, j'ai un truc comme ça qui me reste en tête. Et pour lui, ce qui était dramatique, c'était de voir les enfants venir au monde dans cette ambiance-là. C'est quand même fou, hein, de s'imaginer que tous les enfants qui viennent au monde aujourd'hui vivent dans cette ambiance combien déchristianisée, individualiste et tout ce qu'on veut. La seule réussite, elle est intellectuelle, quoi. Mais il n'y a aucune réussite au niveau de l'amour. D'ailleurs, si je n'aime plus celui avec qui je vis, on peut se séparer et en prendre un autre sans problème. Et donc, il constate ça, comme nous sommes appelés à constater, nous aussi. Et dans sa prière, il dit « Comment puis-je répondre à cette situation ?» N'oublions pas que quand nous méditons le credo, nous disons que notre foi, c'est « Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant. » Nous sommes tellement habitués de réciter qu'on récite tellement vite qu'on ne sait plus ce qu'on a raconté. Mais si on s'arrête et qu'on dit que je crois en ce Dieu qui est Père et qui est Tout-Puissant, voilà mon lien, voilà le lien de ma vie, voilà le lien de ma vie. Il dit, ben voilà, j'ai compris ça, je comprends ce que Dieu attend de moi. C'est beau, vous savez, de pouvoir dire « Je comprends ce que Dieu attend de moi. » Nous pourrions aussi faire ça, personnellement, ensemble. « Je comprends ce que Dieu attend de moi. » Non pas une recette pour réussir, non pas une recette pour réussir, parce que ça, ce sont des succès de librairie, hein, là. La divine volonté, l'autre truc, le machin, le bidule, du succès pour réussir. Le succès pour réussir, c'est la Sainte Vierge, le credo, les sacrements. Donc il se fixe comme objectif de réallumer la foi partout. Quel est notre objectif? Nous qui avons des projets communautaires à rédiger. Rédiger nos projets communautaires. Or, notre objectif, c'est redonner droit de cité au Christ. Ça, c'est notre projet. Vous savez, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais que de fois je dis au Seigneur, si je ne te suis plus utile sur cette terre, tu peux me reprendre. Si je ne te suis plus utile, tu peux me reprendre. Entre nous, il y a assez d'emmerdeurs sur la terre pour que je ne me joigne pas trop à eux. Donc, pour lui, il découvre le combat à mener et c'est ça qui le maintient fidèle. Il découvre le combat qu'il doit mener, il sait avec qui et par qui il le mène et il sait qu'il sera victorieux. Voilà. Mais vous reprendrez ça pour vous-même et... Alors il découvre qu'il peut obtenir un titre qui va solidifier sa mission. Le titre de missionnaire apostolique pour lui et pour ses successeurs. Donc, tout ce qu'il fait, c'est toujours en lien avec l'Église. Je ne sais pas comment vous autres vous comprenez ça. Mais ça me tombe beaucoup dans la tête. Est-ce que c'est en lien avec l'Église hiérarchique ou avec l'Église prophétique? J'ai parfois un peu l'impression que quand on nous parlait de ça aux noviciats, que ce soit le père Amrouster, Boulet ou d'autres, ça me semblait très coincé, hiérarchique. Ça me semblait, je vais pas dire que ça l'est, ça me semblait très coincé dans la structure hiérarchique. Or, nous appartenons à la structure prophétique de l'Église. Je pense que nous savons tous que dans l'Église, il y a deux structures, une hiérarchique et une prophétique. Et que donc tout le monde religieux appartient à la structure prophétique de l'Église. Donc il a une liberté de parole et une liberté d'agir par vocation prophétique. C'est pas moi. Et donc, peut-être que nous aurions à retrouver ce que veut dire ce prophétisme pour chacun de nous et pour l'ensemble. Parce que si nous sommes là pour faire tourner des boutiques, flûte, hein. Je pense toujours à Céline, la dernière des sœurs de Thérèse à être entrée au Carmel, qui avait beaucoup hésité à entrer dans le monde religieux. Et il y a une lettre qu'elle écrit à Thérèse où elle lui dit « Rentrez en vie religieuse pour nettoyer les autels et repartir les surplis. » Ça non. Attention, moi j'aimerais, c'est facile de le dire quand on ne l'est pas, hein, mais moi j'aimerais des responsables qui aident chacun à découvrir le prophétisme de sa vie. Ce serait certainement beaucoup plus payant, si on peut dire ce mot-là, je n'en viens pas d'autre dans ma tête pour le moment, ce serait beaucoup plus payant, beaucoup plus riche, d'aider chacun à retrouver la dimension prophétique de sa vie que de passer au bic rouge pour corriger chacun. Celui-là, ça. Flûte, pour pas dire un autre mot. Hein. Mais que chacun, on lui donne, on lui offre l'occasion de découvrir son prophétisme, les frères seraient heureux. Hein. Seraient heureux et seraient engagés dans le service pour lequel ils sont prophètes. Et ils découvriraient la perle que le Seigneur a déposée en eux. Car il faut toujours revenir à l'Évangile. Il découvrirait le talent qui est en eux, qui n'est pas d'abord un faire, mais qui est un être. Alors, est-ce que nous appartenons à la structure hiérarchique ou à la structure prophétique de l'Église? Et pour moi, appartenir à l'Église, c'est dans le monde où nous avons à être prophètes, nous avons pour mission à construire le corps du Christ, qui est le seul corps qui sauve. Et donc c'est par notre attache à lui. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, disait Jésus. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, imaginez-vous le désir de notre bienheureux fondateur aujourd'hui, en ce 30 novembre 2024, du haut du ciel. Qu'est-ce qu'il dit de vous? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il espère en vous? Qu'est-ce qu'il espère en moi? Qu'est-ce qu'il espère en nous? Qu'il nous obtienne des bénédictions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.